RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et l'Indonésie, la revue suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons de Kroncong. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Union européenne soutient la Syrie à travers l'aide humanitaire. Rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, trois ambassadeurs expliquent les fondements juridiques des attaques contre la Syrie. L'Indonésie veut améliorer le rôle des femmes dans les forces de maintien de la paix de l'ONU. MICTA a une grande contribution à la mission de paix de l'ONU. Média de coopération entre l'Indonésie et les Pays-Bas dans le domaine de la culture et de la langue. Le président Joko Widodo, ouvert IIMS 2018, a rappelé au développement industriel 4.0. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. L'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Gérard, a déclaré que ce qui s'est passé en Syrie ne devrait pas se produire. L'Union européenne soutient la Syrie par l'aide humanitaire et la négociation politique avec le régime syrien. En marge de l'ouverture de European On Screen à l'Institut français d'Indonésie, jeudi 19 avril à Jakarta, il a déclaré que l'Union européenne estimait que le régime syrien était pleinement responsable dans cette situation.
What we Europeans believe on Syria is that there has been now for 7 years a horrible bloodshed in this country.
Ce que les Européens croient en Syrie, c'est qu'il y a eu cette année de bain sanglant dans ce pays à cause de la guerre civile. Nous croyons que ce régime syrien a une très forte responsabilité dans cette situation. Et nous croyons que cela a été une preuve que ce régime a utilisé à plusieurs reprises des armes chimiques contre son propre peuple. Cela est inacceptable et constitue un crime terrible. Et c'est pourquoi l'Union européenne a soutenu les mesures pour montrer à ce régime que l'armée chimique ne peut pas être utilisée. C'est pourquoi, à notre avis, les mesures de détruire l'arsenal chimique de la Syrie sont légitimes. Dans le même temps, l'Union européenne est l'un des plus grands fournisseurs de soutien humanitaire pour le peuple syrien, à la fois en Syrie et celui qui avait fui vers les pays voisins comme le Liban et la Jordanie. Nous fournissons une grande quantité d'aide et nous soutenons autant que possible les pourparlers entre les différents partis syriens à Genève pour trouver une solution politique, car il est évident qu'il y a une solution politique et il n'est pas une solution militaire qui réussira à une guerre civile. Vincent Gérard a ajouté qu'il y avait environ 5 jours une opération militaire conjointe entre le Royaume-Uni, la France et les États-Unis a été menée pour détruire l'arsenal d'armes chimiques en Syrie. Il a également souligné qu'il n'y avait pas de victimes civiles dans cette opération militaire. L'ambassadeur américain en Indonésie, Joseph Donovan, l'ambassadeur britannique en Indonésie, Muazzam Malik, et l'ambassadeur français en Indonésie, Jean-Charles Bertone, ont rencontré la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, au ministère indonésien des Affaires étrangères, Jakarta. Dans la rencontre à huis clos, ils ont discuté des diverses questions. L'un d'entre eux concernait les raids aériens à Douma en Syrie, soupçonnés d'utiliser des armes chimiques. Lors de leur réunion, selon l'ambassadeur Muazzam Malik, sa partie avait demandé à l'Indonésie de rejoindre et de suivre l'utilisation des armes chimiques qui auraient été commises par le régime de Bachar al-Assad. Donc, j'étais en contact avec Mme Retno à la fin de la semaine dernière et j'ai demandé une réunion pour que nous, tous les trois, venions nous expliquer ce que s'est passé et nous offrons de partager nos preuves. Nous allons partager notre opinion juridique et la légalité de ce crime et même ouvrir une coopération totale à l'autorité indonésienne. Donc, nous nous rendons compte de ce qui se passe à Douma et aussi de ce qui est arrivé en Syrie et de la nécessité de voir comment la suite de cette discussion liée à cette question à l'avenir. L'ambassadeur Muazzam Malik a également mentionné que la cible des attaques est la cible d'attaques visant à empêcher l'utilisation d'armes chimiques à l'avenir. Selon lui, l'État de coalition américain n'a pas d'intention de changer le gouvernement ou de changer la direction du conflit syrien, parce que la seule solution de ce conflit est un processus politique inclusif impliquant toutes les parties. En ce qui concerne la base juridique, le gouvernement britannique a expliqué à travers le site www.gov.uk. Ce site a mentionné que le gouvernement britannique s'était réfugié dans les bases juridiques mentionnant que l'attaque contre la Syrie est faite pour résoudre les souffrances humaines subies par la société syrienne en réduisant les capacités d'armes chimiques du gouvernement syrien soupçonné d'être utilisé pour perpétrer des attentats contre Douma en Syrie. L'Indonésie encourage le renforcement du rôle des femmes dans les forces de maintien de la paix des Nations Unies. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, A.M. Fahir, estime le rôle des femmes dans les forces de maintien de la paix est très important et nécessaire, notamment pour réduire les impacts négatifs sur les femmes dans les zones de conflit. Cela a été déclaré par A.M. Fahir dans le discours d'ouverture du Mexique, l'Indonésie, la Corée du Sud, la Turquie et l'Australie au MITA panel de discussion sur les femmes de maintien de la paix tenu à Jakarta jeudi.
Basically, in conflict areas, women are basically most vulnerable.
Fondamentalement, dans les zones de conflit, les femmes sont essentiellement les objets les plus vulnérables. Ainsi, en présence des casques bleus des femmes, j'espère nous pourrions réduire le risque pour les femmes, comme par exemple le harcèlement sexuel. Peut-être nous pouvons également apprendre d'autres pays, et n'est pas seulement dans MICTA. 40% de ces casques bleus de la Suède sont des femmes. L'Indonésie possède 2700 femmes dans les forces de maintien de la paix. Actuellement, selon A.M. Fahir, l'Indonésie est l'un des 10 principaux pays contributeurs à la force de maintien de la paix des Nations Unies, avec 2700 personnes dispersées dans les zones de conflit. Depuis 1957, l'Indonésie a contribué par la fourniture d'environ 40 000 personnes pour maintenir la paix dans divers pays le monde. À l'avenir, l'Indonésie continuera d'augmenter ses contributions en renvoyant un bataillon militaire et des centaines de policiers, dont 40 sont des femmes policiers. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Les pays regroupés dans la coopération informelle de MICTA, à savoir le Mexique, l'Indonésie, la Corée du Sud, la Turquie et l'Australie, ont une contribution significative à la mission de paix des Nations Unies par le déploiement des forces de maintien de la paix. L'envoi de casques bleus est inclus dans l'envoi des troupes des femmes de maintien de la paix, dont le membre continue d'être amélioré par les Nations Unies. C'est ce qu'a affirmé la directrice de la sécurité internationale et du désarmement du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Greta Endah Wardaningtyas, lors du débat de MICTA sur les femmes et le maintien de la paix à Jakarta, jeudi, le 19
avril 2018.
Et si nous regardons dans les données, les 5 pays MICTA actuellement ont contribué environ 3500 casques bleus dans tout le monde avec plus de 100 personnels féminins. Donc c'est pour nous, surtout l'Indonésie, est une bonne chose pour MICTA dans le maintien de la paix. Et je pense que cela est en ligne avec l'ambition du secrétaire général d'augmenter le nombre de femmes de maintien de la paix. Je pense que c'est important pour MICTA pour collaborer et discuter et aussi essayer de trouver une solution. Greta Endah Wardaningtyas a ajouté que les forces féminines de maintien de la paix ont plusieurs avantages par rapport aux forces de maintien de la paix actuellement dominées par les hommes. Selon elle, les troupes de paix féminines sont plus facilement acceptées par les populations locales touchées par le conflit. En outre, elles sont plus faciles de gagner le cœur et les esprits des populations locales et protéger plus efficacement les populations locales contre l'exploitation sexuelle et les actes de violence. Les Pays-Bas et l'Indonésie sont les deux pays qui ne peuvent pas être séparés dans les relations historiques. Ils ont des coopérations dans le domaine de littérature, de culture et de la langue. Il y a beaucoup d'écrivains néerlandais qui ont inspiré son œuvre de l'Indonésie, notamment les choses qui sont encore associées à l'époque coloniale. Par conséquent, comme une forme de participation néerlandaise à maintenir le patrimoine commun, Erasmus Huis a été créé en 1970. Le conseiller économique Sibel Schoor a déclaré à la Voix de l'Indonésie à l'ambassade des Pays-Bas à Jakarta jeudi que Erasmus Huis en Indonésie était le seul centre de la littérature et de la culture néerlandaise dans le monde. Dans le domaine de la littérature ou du cinéma, nous avons Erasmus Huis. C'est le seul centre culturel appartenant encore aux Hollandais, en dehors des Pays-Bas au monde entier. Pourquoi? Parce que nous pensons que les relations culturelles entre les Pays-Bas et l'Indonésie sont des relations très spéciales. Sibel Schoor a affirmé que Erasmus Huis était toujours renouvelé, y compris l'ambassade, dont les relations entre les deux pays restent spéciales. Selon lui, beaucoup de gens indonésiens connaissent mieux Erasmus Huis que l'ambassade néerlandaise. Erasmus Huis peut être le centre d'apprentissage de la langue néerlandaise, la littérature néerlandaise et la littérature européenne. Le président Joko Widodo a ouvert l'exposition Véhicule indonésien Salon international de l'automobile au IIMS 2018. Il a rappelé la tendance de la révolution industrielle 4.0 qui utilise l'autonomisation et la technologie numérique. Le thème de IIMS 2018 qui soutient et s'engage aux produits de voitures électriques reflète l'industrie automobile en Indonésie pour répondre au développement de l'industrie mondiale, a déclaré le président Joko Widodo dans son discours à J-Expo Kemayoran, Jakarta, jeudi. Selon le président, la révolution industrielle 4.0 peut orienter l'industrie automobile à la transition vers le développement de la technologie et ouvre des opportunités pour l'industrie automobile indonésienne. En outre, l'impact de l'utilisation de la technologie numérique, qui le rend plus facile pour les transports en commun, augmentera la production en véhicules en Indonésie, conformément aux besoins du véhicule. 15 agents détenteurs de marque du véhicule à 4 roues ont participé à l'exposition tenue du 19 au 29 avril. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire ayant pour le titre « Le sommet entre la Corée et les États-Unis ». Les Coréens du Nord et du Sud attendent actuellement le résultat de la rencontre de leurs dirigeants avec le président des États-Unis, Donald Trump, pour discuter de l'avenir des relations entre les deux pays dans la péninsule coréenne. Après avoir été séparés à cause de la guerre civile, il est probable que les peuples des deux Corées aspirent à la paix. Le président Donald Trump lui-même espère que le sommet entre les dirigeants de la Corée et des États-Unis aboutira à un accord. Il a exprimé son espoir à Washington mercredi le 18 avril après avoir écouté le rapport de son directeur de la CIA, Mike Pompeo. Pompeo avait spécifiquement visité Pyongyang pendant 3 jours jusqu'au 2 avril et a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Depuis quelques mois, l'idée d'un processus de réconciliation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord se sentit face à un impasse. À ce moment, la Corée du Nord effectuait encore des essais d'armes nucléaires. Il a même lancé des missiles balistiques qui ont été propagés pour pouvoir atteindre le continent américain. En réponse à l'action de Pyongyang, Donald Trump a alors menacé d'attaquer la Corée du Nord. La guerre entre Washington et Pyongyang s'est finalement calmée après l'émergence de signes de dialogue entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. L'assouplissement de la position de la Corée du Nord est marqué par l'acceptation de délégations d'artistes K-pop qui se sont rendus à Pyongyang et a attiré l'attention du leader nord-coréen. Avant ce sommet, Kim Jong-un a rencontré le président chinois Xi Jinping lors d'une visite d'État à Pékin en Chine. Comme les peuples des deux Corées, la communauté internationale espère également que le sommet des deux dirigeants coréens avec les États-Unis puisse avoir lieu et aboutir à un accord qui intensifiera les bonnes relations. Pour les peuples des deux Corées, le sommet est certainement accueilli avec beaucoup d'optimisme. Ce sera le premier à avoir lieu après la division de la péninsule coréenne en Corée du Nord et en Corée du Sud à cause de la guerre civile. Est-ce que l'optimisme et l'espoir du peuple puissent être réalisés? Attend toujours les résultats du sommet Corée-États-Unis. Cet espoir est également très dépendant de l'attitude du leader nord-coréen, notamment face aux exigences de la dénucléarisation. En outre, il ne peut pas non plus être séparé de la façon de la Chine et des États-Unis, deux pays principaux partisans de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, pour aborder et voir l'avenir des deux pays qui étaient à l'origine un. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 20 avril 1999, la ville d'Umai Ariau a été inaugurée d'être une municipalité. Dumai est un petit hameau sur la côte est de la province de Riau, environ 188 km de la ville de Pekanbaru. Dumai, qui est le résultat de l'expansion du district Bengkalis, a été inaugurée comme une ville le 20 avril 1998, avec la loi numéro 16 l'année 1999. Le statut président de Dumai était la ville administrative. Au début de l'établissement de la zone administrative du gouvernement, la ville de Dumai a 3 districts, 13 villages urbains, et 9 villages avec une population seulement plus de 250 000 habitants. La ville de Mae possède une superficie environ 1623 km² et la ville la plus large en Indonésie. Actuellement, Dumai est proclamée comme une ville qui est entrée dans la zone de marché libre international. Le 20 avril 1999, le meurtre de masse au lycée Colombine. Le 20 avril 1999, deux élèves du lycée Colombine à la ville Littleton, Colorado aux États-Unis ont tiré sur leurs propres amis. La fusillade à l'école a tué 12 étudiants et un enseignant et blessé 23 autres. Ensuite, deux étudiants nommés Dylan Klebold et Eric Harris se sont suicidés. Les assassinats de ces écoliers font partie de nombreux autres incidents similaires aux États-Unis et ont suscité une controverse au public sur la loi sur la liberté de posséder les armes dans leur pays. Le 20 avril est commémoré comme Journée nationale du consommateur. Chaque 20 avril, l'Indonésie célèbre la Journée nationale du consommateur ou Harkornas, le jour où le peuple d'Indonésie se bat pour la protection des consommateurs. Le contexte de Harkornas et la protection des consommateurs en Indonésie est toujours un problème qui ne peut pas être résolu efficacement. L'État joue un rôle important en termes d'autonomisation du consommateur parce que le consommateur est souvent une partie faible, incapable de se battre pour ses intérêts. La loi numéro 8 l'année 1999 sur la protection des consommateurs a été établie le 20 avril 1999 dans le but de créer une société juste et prospère, à la fois matérielle et spirituelle, à l'ère de la démocratie économique fondée sur Pancasila et la Constitution 1945. La Journée nationale des consommateurs était initialement organisée par l'Agence nationale de protection des consommateurs le 20 avril 2012. Par ailleurs, la commémoration de la Journée nationale des consommateurs a été réalisée par le gouvernement avec la coordination du Directorat de l'autonomisation des consommateurs, le Directorat général de la standardisation et de la protection des consommateurs et le ministère du Commerce. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec mon Indonésie et pour le titre Indonésie et Vietnam sont d'accord pour accroître la coopération commerciale. L'Indonésie réexportera des produits automobiles vers le Vietnam après l'arrêt de l'accès au marché d'exportation des produits automobiles indonésiens vers ce pays. Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères à Jakarta mardi a déclaré que c'était l'une des questions abordables dans la troisième session de la commission conjointe Indonésie-Vietnam le 17 avril 2018. La réunion de la commission mixte tenue à Hanoï au Vietnam, dirigée conjointement par la ministre des Affaires étrangères Ratna Marsudi et son homologue vietnamien Pham Binh Minh, la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie Ratna LP Marsudi a déclaré qu'elle était heureuse d'exporter les produits automobiles indonésiens sur le marché vietnamien. Les produits automobiles sont l'une des exportations les plus importantes de l'Indonésie vers le Vietnam, qui atteint environ 293 millions de dollars américains en 2017. Plus tôt, à la fin de 2017, le gouvernement du Vietnam a publié un règlement limitant l'importation de l'automobile dans le pays. Madame Khatam Marsudi a déclaré qu'en tant que proche voisin de l'Indonésie, la coopération bilatérale entre l'Indonésie et le Vietnam s'est développée rapidement depuis que les deux pays ont convenu d'un accord de partenariat stratégique en 2013. Dans le domaine économique, la valeur commerciale des deux pays continue d'augmenter 6,8 milliards de dollars américains en 2017, soit une augmentation de 8,64% par rapport à 2016. En outre, il y a une augmentation de la valeur de l'investissement bilatéral entre les deux pays. En 2017, les investissements du Vietnam en Indonésie ont augmenté d'environ 300%, tandis que les investissements indonésiens au Vietnam ont augmenté d'environ 36% en 2017. Diverses réalisations dans le domaine de la coopération économique sont en ligne avec les objectifs du plan d'action stratégique des deux pays pour la période 2014-2018. Lors de la réunion de la commission mixte au SKB, les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu que l'élan positif de la coopération économique entre les deux pays devait être maintenu. À cette fin, les deux ministres sont convenus d'élaborer immédiatement un nouveau plan d'action pour la période 2019-2023 en tant que guide ainsi que la cible de la coopération entre les deux pays au cours des 5 prochaines années. Le plan d'action sera finalisé en novembre 2018. Plusieurs nouveaux secteurs proposés par la ministre indonésienne des Affaires étrangères pour entrer dans le nouveau plan d'action sont entre autres les industries stratégiques de défense, la culture des plantes et des animaux marins, le tourisme maritime, les énergies renouvelables et les industries créatives. Retno Marsudi espère que de nouveaux plans d'action soient achevés en 2018 en intégrant de nouvelles opportunités. Les deux ministres des Affaires étrangères encourageront également une plus grande interaction avec diverses communautés d'affaires afin d'explorer des mesures novatrices pour tirer parti des opportunités disponibles. Madame Khatam Marsudi a déclaré que certains secteurs identifiés sont encore ouverts aux hommes d'affaires indonésiens au Vietnam, comme le secteur en aval du pétrole et du gaz, des hôtels et des biens. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Serviteur, voici donc le rappel du titre de l'actualité.
L'Union européenne soutient la Syrie à travers l'aide humanitaire. Rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, trois ambassadeurs expliquent les fondements juridiques des attaques contre la Syrie. L'Indonésie veut améliorer le rôle des femmes dans les forces de maintien de la paix de l'ONU. Mikta a une grande contribution à la mission de paix de l'ONU. Média de coopération entre l'Indonésie et les Pays-Bas dans le domaine de la culture et de la langue. Le président Joko Widodo ouvert IIMS 2018 a rappelé au développement industriel 4.0.
Serviteur, c'était le rappel de titre de l'actualité de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Magazine Culturel. Et cette fois, nous allons présenter le géoparc Choletu, site touristique naturel à Sukabumi, Jaffa Ouest. L'île de Java a beaucoup d'endroits intéressants à visiter, tels que Géoparc Choletu à Sukabumi, comme par exemple. Donc pour ceux qui veulent sentir la paix de la nature, mais n'ont pas beaucoup de temps, en fait, ne soyez pas confus, il y a le Géoparc Choletu que vous pouvez visiter dans le week-end. Le Géoparc de Choletu à Sukabumi est l'un des endroits de vacances incroyables que vous devriez considérer, surtout pour vous qui voulez visiter la nature avec un défi. Le Géoparc Choletu Sukabumi ou le parc naturel de Vieille Pierre à Choletu Sukabumi, Java Occidental, est une bonne attraction naturelle à Java Ouest. Selon les géologues qui ont déjà étudié le Géoparc Choletu Sukabumi, cet endroit est l'une des zones touristiques de Sukabumi avec les roses les plus anciennes à l'île de Java. Cet endroit était en fait la mer, mais maintenant il a été soulevé de sous la mer et plus tard renommé comme Géoparc Choletu. Le paysage de la baie Choletu est un effet intéressant. Le paysage retiré ressemble à un amphithéâtre gigantesque qui ressemble à un fer à cheval face directement à l'océan Indien. Idéalement, lorsque vous visitez le Géoparc Choletu, il vaudra 3 jusqu'à 4 jours si vous voulez profiter de la plupart des attractions naturelles existantes dans le Géoparc. Mais si vous avez seulement un temps limité, vous pouvez toujours visiter certains endroits principaux au Géoparc Choletu qui peuvent être atteints dans un jour, comme par exemple Panenjoan, la place de Palampang, la cascade de Timarinjung, Awang et Sodong et le pic Dharma. Le Géoparc Choletu offre une vue imprenable sur la barrière de corail ainsi que de magnifiques cascades de montagne. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité et au revoir.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présent les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir et bienvenue dans l'édition l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous vous présentons le sujet sur l'unicité du parc national de Baluran à Situbondo, Java Est, Indonésie. L'Indonésie a de nombreuses attractions naturelles et les parcs nationaux, dont l'un est le parc national Baluran à Situbondo, Java Est, Indonésie. Le plus intéressant là-bas, vous pouvez sentir l'atmosphère unique de l'Afrique avec la savane et troupeaux d'animaux sauvages. Le thème de l'Afrique van Java est en notre nom du parc national Baluran. Cette zone est située dans le district de Banyu Putih, la résidence de Situbondo, Java Est. La position est située au nord du détroit de Madura. L'endroit du parc national Baluran est assez facile à trouver. Sa porte d'entrée est située à la rue Situbondo-Banyuwangi, qui est l'accès principal des voyageurs de Jakarta ou de Java Est vers Bali via la route de la côte nord. Le surnom de l'Afrique van Java ou l'Afrique à l'est de l'île de Java au parc national Baluran n'est pas faux. La région d'une superficie de 25 hectares est un site touristique naturel qui est complet. Il y a des forêts, les océans, les montagnes et les savanes. L'une des raisons de ce parc national est appelé par l'Afrique van Java est parce que là, il y a une vaste savane qui est très belle. Cette savane est similaire à celle de l'Afrique. La forêt du parc national Baluran est connue comme forêt de conifères ou la forêt qui conserve un feuillage vert toute l'année. Bien que la saison sèche, la couleur verte continue à dominer la forêt et il n'y a pas de période de sécheresse. En plus de la forêt, dans cette région, il y a une montagne appelée le Mont Baluran avec une hauteur de 1247 mètres sur la surface de la mer. Cette montagne est la montagne la plus orientale à Java Est. Par conséquent, le nom de la montagne est également utilisé comme le nom du parc national. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous revoyons en d'autres occasions avec d'autres sujets intéressants. À demain.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Et pour cette fois, nous allons présenter des chansons de la région de Java Central. Écoutons maintenant la première chanson intitulée Jangkrik Genggong, chantée par Fika. C'était la chanson de Java Central intitulée « Jangkrik Genggong » chantée par Fika. On ne sait pas encore le créateur de cette chanson. Elle parle de deux personnes qui apprennent à se connaître et dans le processus de la connaissance, on décrit comment ressentir le désir avec quelqu'un quand loin de ses proches. Cette chanson est également chantée par le célèbre chanteur keroncong indonésien qui s'appelle Waljina. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons intitulées Jubla Jubla Suang chantées par Nathan et Reza. Kita toujours la voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme musical et cette fois nous présentons des chansons de la région de Java Central et c'était une chanson intitulée Jubla Jubla Suang chantée par Nathan et Reza. Cette chanson est généralement chantée par les enfants tout en jouant au jeu Jubla Jubla Suang. Le jeu nécessite un minimum 3 personnes. Le sens de la chanson est afin d'obtenir le vrai bonheur, il faut échapper à l'amour des biens matériels. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, nous allons présenter les deux dernières chansons intitulées Gundul Gundul Pacul et Jaranan. Merci à tous et au revoir.
Go!
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Lepas tangan, lepas.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était des chansons indonésiennes ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.